Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence, mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager?
Prof, etc.
Jacques Méty est né à Bienne, une commune suisse du canton de Berne, mais c'est à la Chaux-de-Fonds que se sont imprimés ses premiers souvenirs. À 7 ans, Jacques voulait remplacer Actarus dans Goldorak, et finalement, il est devenu éducateur à Lausanne, dans un centre d'accueil d'urgence pour des enfants ou des ados de 13 à 17 ans. Au départ, il s'était fixé un chemin tout tracé, devenir enseignant puis enseignant spécialisé, mais après une formation d'éducateur, il s'est senti à sa place. Jacques apprécie ce travail qui lui demande constamment des remises en question. Il se sent bien au sein d'une équipe qui bouge et au contact de familles qui sont toujours bien différentes. Mais Jacques accorde également une grande importance à ce qui se passe en dehors de sa profession. Voyager, grimper, s'occuper d'une famille de 3 enfants en garde alternée, habiller son intérieur, créer des choses, travailler pour sa maison, photographier, chanter, la liste est longue. Et puis un beau jour, en devenant papa, aussi extraordinaire que cela puisse paraître, il s'est rendu compte qu'il était impossible sur Internet d'obtenir des informations fiables pour savoir si tel ou tel film était montrable à un enfant. Jacques a alors trouvé son côté etc. Il a créé le site Quel film pour nos enfants et aujourd'hui filmpourenfants.net est une véritable bible pour celles et ceux qui veulent savoir si tel ou tel film est adapté à leur enfant. Jacques Méty, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous avez pris ce matin au petit déjeuner?
Voilà, je suis en train de boire de l'eau, mais à part ça, j'ai encore rien pris.
C'est une habitude de ne rien prendre ou c'est le hasard de ce jour?
J'avoue que ces derniers temps, j'essaye de sauter le petit déjeuner. C'est étrange, hein.
Prof, etc.
Quel regard portez-vous sur votre enfance, Jacques?
Je me rappelle différentes choses. J'ai l'impression que j'étais un gamin qui avait la chance de pouvoir sortir, de m'amuser. Mon père, il aimait beaucoup l'extérieur, donc on était souvent dehors. À la Chaux-de-Fonds, on avait un grand jardin. Et il n'était pas à nous, il était à un des locataires qui avait accès au rez-de-chaussée. Mais nous, on pouvait l'utiliser. Je me rappelle, j'avais fait ma cabane là-dedans. Beaucoup de liberté.
Quel est votre meilleur souvenir en tant qu'élève?
J'ai l'impression que il y a eu un changement chez moi grâce à un professeur en sixième année. J'ai toujours été considéré comme quelqu'un de pas vraiment capable. Et en sixième année, tout d'un coup, il y a quelque chose qui a changé. Et cet enseignant, il faisait faire des textes aux élèves. Et tout d'un coup, je suis devenu le meilleur parce que je faisais des textes tout le temps. Et puis, j'ai été valorisé à travers ça. On lisait les textes en classe. C'est une espèce de petite boîte à textes.
Et plus tard, vous avez été quel genre d'adolescent?
Je pense que j'étais assez tranquille quand je vois les adolescents qu'on a actuellement. J'étais assez tranquille, puis assez heureux de vivre. J'avais plein d'intérêts un peu différents artistiques. J'ai pas fait souffrir mes parents. Je leur ai pas fait peur. J'aimerais bien que mes enfants soient comme ça.
En quoi cette période de l'adolescence a influencé le choix du métier d'éducateur que vous exercez aujourd'hui?
Je pense que soutenir, aider les adolescents, c'est important parce que c'est une phase qui construit la vie et il y a des gens qui ont de la chance d'avoir des familles qui arrivent à s'auto-supporter et il y en a qui ont beaucoup plus de peine. Moi, je pense que en découvrant adolescent que j'ai eu des parents qui m'ont vraiment laissé faire beaucoup de choses, mais parce qu'ils avaient confiance en moi, j'aurais envie que ça puisse se passer comme ça aussi ailleurs.
Prof, etc.
Je disais tout à l'heure que filmpourenfants.net avait germé un peu après la naissance de votre premier enfant. Comment avez-vous procédé pour vous atteler à cette gigantesque tâche?
Bon, il y a déjà la question de maîtriser un petit peu Internet. J'avais la chance, un jour, un ami m'a fait un site pour des histoires, pour une petite exposition de photos que j'avais fait. Et je me suis entraîné à m'amuser vraiment en autodidacte à partir de sites. J'en ai fait d'autres, donc j'ai eu une maîtrise un petit peu de réussir à mettre du texte disponible à tout le monde. J'ai pas eu besoin de webmaster pour ça. Et après, ben, il a fallu un peu réfléchir sur comment est-ce que je présentais ça, qu'est-ce que je mettais à l'intérieur. C'est compliqué de faire un site parce que l'idée posée à la base, ben pour moi, elle pouvait pas beaucoup évoluer parce qu'après, sinon, je devais tout remodifier les choses. Donc, j'ai dû bien réfléchir sur qu'est-ce que je voulais mettre un peu en avant au niveau du contenu, montrer les messages qui a à l'intérieur d'un film. C'est pas la même chose que de faire un résumé du film. Je trouvais qu'il y avait que ça, des résumés de films, puis c'était pas quelque chose de très innovant. Donc, se dire, ah oui, ce qui est important pour le parent, c'est qu'est-ce qu'il veut raconter le film, qu'est-ce qu'il y a derrière l'histoire. Puis après, surtout, pourquoi est-ce qu'il est adapté ou pas à un enfant? C'est parce qu'il y a toutes ces scènes qui peuvent être tout d'un coup un peu compliquées pour l'enfant. Les messages, puis les scènes difficiles, c'est arrivé comme ça. Et après, il fallait voir quel film je mettais. Donc, je suis tout seul pour analyser et mettre en avant ces films. Donc, j'y allais petit à petit avec les films qui sortaient, avec ceux qui m'intéressaient.
Du référencement des films pour enfants, vous effectuez un gros travail rédactionnel pour aider les adultes à sélectionner des films pour leurs enfants. Combien de films sont actuellement référencés et est-ce que vous avez vu tous ces films?
Alors, combien ils sont référencés? Je pourrais faire une petite recherche directement maintenant pour savoir. Je pense qu'il y en a plus que 2000. Ah, après, c'est pas que des films, c'est aussi des séries. Et oui, je regarde tout. C'est-à-dire que si je regarde une série, je regarde tous les épisodes, par exemple. En tout cas, d'une saison, par exemple, où je note, j'ai regardé cette saison-là, parce qu'il y a des évolutions, des fois, entre différentes saisons. Et je suis obligé de regarder un film en entier, parce que les moments qui sont tendus, quelque chose qui peut apparaître, ça peut apparaître à n'importe quel moment du film, et c'est rarement au début. Donc, même au niveau des séries, on peut avoir l'impression que les trois premiers épisodes, c'est quelque chose qui est très mignon, et puis tout d'un coup, au bout du septième, ou dans le dernier, des choses nettement plus étranges qu'apparaissent.
Alors, pour chaque film, vous proposez une fiche de présentation du film, où l'on retrouve toujours trois thématiques. Le message ou les messages véhiculés par le film, une description des scènes difficiles, et une analyse du vocabulaire présent dans le film. Pourquoi ce choix?
Il a fallu poser quelque chose, c'est un peu comme j'expliquais avant. Qu'est-ce qui me semblait être le plus important pour le parent au départ, parce que ce qu'on voit maintenant, c'est la deuxième présentation du film du site. Il y a quelques années, une nouvelle personne est venue m'aider à travailler là-dessus. Et puis il m'a proposé de repenser le design. Au tout départ, il y avait aussi le montage. Et puis, ben, on s'est dit que montage était un peu compliqué. Ça a apparu juste un petit peu au départ. Maintenant, ce qui reste comme présentation, c'est un peu le reste du montage. Message, c'est important. Message, c'est vraiment fondamental parce que c'est rare qu'on nous dise dans ce film, on met en avant ça ou ça comme thématique. On nous parle que du résumé. Et puis, scène difficile, c'était aussi, comme je disais, important parce qu'à un moment donné, il y a plein de choses, des malaises, des mises en danger, des sexualisations, enfin, de la moquerie, plein de choses qui peuvent tendre l'enfant ou qui peuvent l'amener à percevoir les choses d'une certaine façon.
Bien sûr, vos analyses sont les vôtres et d'autres personnes n'auront pas forcément la même lecture d'un même film. Est-ce que vous essayez de privilégier la neutralité, qualité légendaire des Suisses, je le rappelle, ou prenez-vous le parti de rester sur votre sentiment avec la subjectivité que cela implique?
Alors, de toute façon, j'ai conscience que c'est moi qui les écris. D'ailleurs, s'il y a que moi qui les écris, parce qu'on a déjà eu des propositions de certaines autres personnes de dire, ah, j'aimerais bien faire des analyses, c'est pour permettre à la personne, aux gens qui viennent sur les fiches de se dire, non, moi, je connais ce rédacteur d'une certaine façon. Et je vois bien qu'il a tendance à percevoir les choses comme ça et je me positionne un petit peu différemment. Après, pour les scènes difficiles, j'ai tendance à être très factuel. Il y a ça qui se passe et je le mets. Après, tout d'un coup, je pourrais rater des choses. Des aboiements de chiens, je les mets pas toujours quand quelque part, pour des petits, il y en a peut-être qui angoissent par rapport à ça et ça pourrait mériter que les aboiements de chiens soient mis dans le film, mais j'ai quand même mis une certaine limite dans ce qu'il fallait que je décrive comme tension. Et après, dans tout ce qui est l'analyse, j'ai une cinquantaine de thèmes que je me suis amusé à faire ressortir en général, puis après, je les revisite à chaque film en disant, tiens, il y a ça qui apparaît, il y a ça qui apparaît. Je peux tout à fait manquer quelque chose. Je vois bien, par exemple, à l'ère du MeToo maintenant, ben, qui a une sensibilité à ça. Ben, je l'avais déjà un petit peu au départ, mais ce rapport entre les sexes, je pense que ça mériterait presque d'apparaître encore un peu plus.
J'imagine que vous avez des statistiques sur la fréquentation de votre site. Quelle est la fiche de film qui rassemble aujourd'hui le plus de vues, vous le savez?
Je pense que ce qui fait venir les gens, c'est les films qui sont, enfin, on va dire qui étaient, parce qu'en ces temps un peu compliqués, qui sont au cinéma. Quand il y a un nouveau Disney qui apparaît, quand il y a un nouveau Pixar qui apparaît, quand il y a un film de super-héros qui apparaît, ben, il y a beaucoup plus de personnes qui font une recherche sur ce film. Et puis aussi à la télévision, on voit bien tout d'un coup, il y a tiens, Jurassic Park. Pourquoi est-ce qu'il y a Jurassic Park qui est de nouveau là? Eh ben, c'est parce que il y a tout d'un coup une chaîne qui propose ça.
Prof, etc.
Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois et pour quelle raison?
Bonne question. Je suis pas sûr de me rappeler. Je suis pas quelqu'un qui rit beaucoup beaucoup. J'ai plus de sensation de Le rire, il est compliqué pour moi. Je vois ça aussi à travers les dessins animés. Il y a des rires qui sont Non, mais c'est pas vrai. J'ai vu Borat avant-hier avec ma copine et il y a des moments donnés où j'ai ri. Et des fois, c'est ça qui me dérange parce que le rire, il peut être en lien avec des choses qui sont pas forcément amour et gentillesse. Et on voit ce genre de problème-là dans les films. D'ailleurs, c'est des fois compliqué pour moi de mettre ça en avant. Je le mets sous moquerie, par exemple. Il y a beaucoup de petits dessins animés qui tournent autour de ça. On fait rire les gens parce qu'il y a des gens qui souffrent ou bien parce qu'il y a des gens qui sont dénigrés. Alors, le rire, il est chouette. Mais ben, donc, par exemple, dans Borat, je le conseille pas spécialement aux enfants. Le rire, il est pas spécialement sympathique, on va dire ça, même si je dénigre, enfin je rejette pas ça, je l'accepte aussi chez moi. Mais pour mes enfants ou pour les enfants, je dirais attention, faites gaffe, ces rires-là, eh ben ils partent pas d'un automatisme sympathique.
C'est vrai qu'il y a une frontière, mais Borat, je l'associerais presque à Chaplin, qui avait vraiment l'art de l'autodérision, et finalement le rire à propos des scènes de Chaplin, c'est un rire presque décomplexé, parce que c'est une moquerie de lui-même, donc elle passe, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Chez nous, enfin moi, quand je vois un Borat ou Bruno, c'est aussi le même réalisateur qu'a fait. L'adulte, je pense qu'il arrive à faire à pas prendre ça au premier degré. Mais les Chaplin ou les Tom et Jerry, vus par les petits, je sais pas. Je pense, même si. Il y a forcément une certaine distance, qu'on montre une certaine violence et on tape et on joue là-dessus pour faire rire les personnages. L'adolescent qui voit ce qui se passe dans Borat, dans Bruno, dans Ali G, enfin, il faudrait une forme d'explication avec lui en même temps. Parce qu'ils prennent quand même ça au premier degré, ça les fait bien marrer. South Park, c'est la même chose. Moi, j'adore South Park, mais... Le gamin de 12 ans qui regarde ça, il va retenir autre chose que la super critique de société qu'ils amènent à chaque épisode.
Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel ?
Je pense que le moment du repas avec mes enfants m'impressionne toujours, quoi. Et encore plus maintenant, j'ai trois gamins qui parlent beaucoup. Alors, préféré, c'est pas le plus facile parce qu'il faut réussir à faire face à ça, hein. Ils sont pleins d'énergie et ils ont envie de raconter leurs trucs. Il faut maîtriser parce que maintenant il y en a qui sont grands, le plus grand il a 16 ans, la plus petite elle a 11, donc il faut aussi manager les discours, hein. Il a des intérêts qui sont bien différents, mais voilà, on parle beaucoup, ils amènent leur thème, maintenant ça tourne autour tout d'un coup du sexe ou des choses comme ça, ou... c'est moi je trouve impressionnant comme ça peut être riche.
Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous?
Je trouve que et c'est intéressant parce que certains ados, ils ont ça, c'est accepter l'autre. J'ai l'impression que on a tendance à partir un peu dans ces deux extrêmes, de se dire non mais on peut accepter un peu tout le monde. Et puis ça crée en parallèle de ça, non il faut refuser, il faut un peu refuser certaines choses et interdire. Et je pense que le vivre ensemble, le réussir à comprendre l'autre, même s'il est différent, puis qu'il n'a pas les mêmes avis. Je pense que ça, si on n'a pas ça, maintenant, on est foutu. Après, en dehors de ces valeurs-là, moi, je pense que je suis assez pétri d'écologie, en me disant qu'en dehors de l'être humain, enfin, ce que je disais en premier, c'était autour de l'être humain, mais en dehors de l'être humain, maintenant, il faudrait réussir à faire gaffe avec la planète.
Alors, de quelle manière parvenez-vous à intégrer cette valeur de l'acceptation de l'autre dans votre pratique d'éducateur ?
L'idée, c'est que dans la famille, les gens s'écoutent et puis comprennent l'interlocuteur en face. Quand on travaille en entretien de famille, ben, y a le jeune qui est dans ses besoins, ses nouveaux besoins, parce que les parents, ils ont affaire à quelqu'un qui grandit. Puis le parent qui a affaire à justement ses valeurs ou ses perceptions, et puis qu'il y a de la peine à comprendre que l'autre en face y change ou qu'il veuille quelque chose, et puis ça crée des fritures, et puis nous on est souvent une forme de... On renvoie la parole de l'autre, on leur permet un peu de s'écouter.
Quel mot, selon vous, compléterait le mieux le mot « éduquer » ?
Un S apostrophe avant, s'éduquer, parce que éduquer c'est essayer d'agir sur les autres, et je pense que... On peut agir un peu que soi-même, sur soi-même. C'est un des paradoxes du métier d'éducateur. Hein. On n'y croit pas. Enfin, imaginez que c'est moi qui vais faire bouger l'autre, c'est le meilleur moyen pour qu'il nous montre qu'il va pas le faire. C'est s'éduquer, c'est que la personne s'intéresse à ce qui existe autour de lui, c'est que la personne travaille elle-même sur elle-même.
Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fier?
Pour moi, je pense que j'ai la chance ou la difficulté d'être un peu un réflexif. J'ai cette capacité un peu d'analyse, de me mettre un peu dans une position méta. Il y a un côté où je suis content, puis il y a un côté où des fois ça coupe un peu des émotions. Je me dis, oh là là, j'ai un peu un petit côté autiste. Ce site, il a des fois un petit côté autiste, comme ça, un petit côté, je vis seulement une chose et, d'ailleurs, c'est un temps internet qui des fois me désole un peu aussi. Mais ouais, je pense que c'est cette capacité de réfléchir, j'aime bien.
Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée, vous choisiriez qui?
Moi, je m'essayerais bien dans une autre espèce, mais pas trop lointaine, un homme du Néandertal, pour essayer de voir qu'est-ce que c'est les logiques différentes, même un animal, hein, pour vraiment ressentir qu'est-ce que c'est l'humain, on se ressemble quelque part un peu trop. Ça serait gâcher un vœu incroyable. Si on va dans une baleine, ou si on va dans un homme du Néandertal, ça serait assez incroyable.
Prof, etc.
On arrive bientôt à la fin de cet entretien et ma dernière question, c'est la suivante. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les 2 prochaines années?
Bon, moi j'ai de la chance. Enfin, on est dans une période maintenant compliquée, hein, avec ces histoires de Covid qui génèrent du stress un peu chez beaucoup de personnes. Me souhaiter quelque chose à moi-même. J'ai l'impression d'être déjà dans une partie du monde qui va très bien, avec la chance d'avoir des salaires qui arrivent parce que je suis pas touché par ces histoires de Covid. Mais je me souhaiterais de pouvoir fonctionner avec des gens qui seraient moins en tension ou qui souffriraient moins, parce que je trouve que les gens vivent des choses difficiles. Mais voilà, je pense que quand on a la chance de pouvoir fonctionner avec des gens qui sont heureux, notre vie est plus facile.
Merci Jacques d'avoir passé ce moment avec moi.
Mais de rien. Ça fait un peu bizarre de parler un peu de soi-même parce que j'ai pas. Il y a un côté où je m'intéresse pas tellement beaucoup à moi-même. Je suis plutôt intéressé au monde qui m'entoure, mais c'est rigolo de faire ce petit travail.
Mais je suis sûr que ça va intéresser beaucoup d'auditeurs. Vous pouvez retrouver les détails sur le site filmpourenfants.net en description de cet épisode. Si vous aimez Prof, etc., n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de diffusion préférée. Si vous avez envie de m'aider, vous pouvez m'offrir des étoiles, 5 de préférence, sur l'application podcast depuis un iPhone ou un iPad, ou sur iTunes depuis un ordinateur. Vous pouvez également y laisser un commentaire. Et si vous avez envie de partager votre côté, etc., avec les auditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À vendredi!